Des fois, je me demande, mais pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce que je fais. Je sais que je suis là. Et que c'est bon pour moi de partager quelque chose. Je me demandais, mais au fond, tous ces efforts qu'on fait dans la méditation, cet intérêt, après pour moi, il y a toute cette maison à porter. Pourquoi? Et je pense qu'il y a toute une part de gratitude, parce que d'une certaine manière, le dharma m'a sauvée. La vie sans cette conscience qui enveloppe, qui ancre, elle est tellement anxiogène. Encore aujourd'hui, on est en train de polluer la planète. L'aveuglement humain est tellement monstrueux que sans avoir cette manière de pouvoir se dégager et puis observer, ah ouais, ben là il y a quelqu'un qui enseigne. Fait de son mieux, qui partage, c'est bon. Mais c'est assez mystérieux et étrange. Puis pourquoi vous êtes là? Vous savez pourquoi vous êtes là exactement? C'est étonnant. En tout cas, c'est sûr que dans mon expérience, le fait d'avoir cette honnêteté, cette authenticité, d'aller voir le qui suis-je, de s'enfiler dans cette complexité du moi et du monde et des autres, tout en pouvant être dégagé. Je viens dans l'intimité tout en étant cet observateur ou ce témoin. C'est source de quelque chose qui donne l'impression d'être dans la cible. Disons que c'est une illusion qui permet la libération. Et ce soir, j'aimerais peut-être parler d'abord de cet aspect de la personnalité, comment nous créons notre monde. Comment, ou aussi ce que ce monde peut vraiment nous apporter. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce monde? Qu'est-ce que c'est que la nature de l'esprit? Le Bouddha a parlé de la première vérité noble, dukkha, la souffrance. À première vue, ça paraît pas très rigolo. Mais en fait, c'est profondément libérateur. Ariya, c'est noble. C'est une vérité noble. Parce que le monde nous aveugle. Nous sommes dupés par les valeurs du monde. Et nous croyons qu'il peut nous apporter ou qu'elle peut être à la hauteur de nos aspirations les plus profondes. Et quand le Bouddha parle de dukkha, il parle d'abord de cette limite temporelle. Nous naissons, nous avons un temps de vie. On vieillit, on devient malade, on meurt. Comme ça. Vous êtes d'accord ou bien? Pas tellement rigolo. Parce que nous sommes aussi éternels. Il y a quelque chose en nous. Pour les jeunes, je dois être très vieille. Je me sens pas spécialement vieille. Vous verrez quand vous serez vieux. Et il y a cette réalité que dans la vie, nous sommes sans arrêt liés à ceux et ceux que nous n'aimons pas, qui nous mettent à l'étroit, qui nous font peur, qui nous agacent, ou ces choses de la vie qui sont douloureuses. Et nous sommes sans cesse séparés de ceux et ceux que nous aimons. C'est un réel que nous pouvons vraiment constater dans l'exercice de la méditation. Comment j'aimerais tellement ne plus avoir toutes ces pensées qui se poussent au portillon. Je suis séparée du silence. Ou comment j'aimerais tellement avoir un corps détendu, agréable. Tous les autres, regarde, tous les autres, ils sont bien. Puis moi. Et dans notre vie, c'est comme ça. Nous voulons être ceci ou cela, et il y a autre chose. Et si nous regardons honnêtement, qu'est-ce que le moi aimerait vraiment? Il aimerait bien être en bonne santé, il aimerait bien réussir ce qu'il a envie de réussir, il aimerait bien jamais être malade, il aimerait bien être connu, il aimerait bien être beau, être sage, être ce qui lui fait plaisir. Et comme la vie est dualité, quelquefois, c'est pas ça qui se passe. Et tout est là. Quelle réponse est-ce que nous donnons? La libération ou la souffrance est créée à ce moment-là. Alors c'est sûr qu'à un certain niveau, nous allons faire des efforts pour aller vers ce qui est bienveillant, généreux, altruiste, compassionné, et nous allons éviter d'aller vers ce qui cause beaucoup de souffrance, comme l'égoïsme, l'avidité, la dureté. Mais c'est bien joli d'avoir envie, c'est pas suffisant. Si avoir envie, si l'intention suffisait, nous ne serions pas là. Et même quelquefois, même si c'est déjà mieux de faire le bien que de faire le mal, ça n'est pas la fin de l'anxiété. C'est même des fois le contraire. J'en fais jamais assez, il faut que j'en fasse plus. C'est jamais bien, c'est jamais pénible, quoi. Donc, nous n'avons pas vraiment le choix si nous voulons être libéré, il faut se connaître soi-même et reconnaître qu'il y a une bonne partie de nous-mêmes qui est aveugle. Ça demande un peu d'humilité, accepter cette première vérité dukkha. C'est la nature de l'esprit. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas besoin de croire que je devrais être parfaite. Ça, c'est l'orgueil. Voilà, c'est juste l'orgueil. Hein. Mais c'est l'orgueil. C'est le moi qui confond ce qui est non conditionné, qui fait aussi partie de l'être. Et ces conditions qui nous limitent à quelque chose qui est accompli, mais aussi une bonne part d'inaccompli. Et comment faire pour que, quand l'inaccompli émerge, je ne me contracte pas? C'est ce qui se passe en général. L'inaccompli émerge et il y a une contraction instinctive qui fait que je crée ma souffrance parce que je n'ai pas compris. Comprendre, dukkha, comprendre cette première vérité, c'est vraiment l'apprendre. Ah, maintenant il y a ça. Peut-être pas glorieux, mais c'est ça. Et du moment que c'est là, c'est extrêmement précieux. Parce que c'est là que le travail se fait. Ça n'est pas ailleurs. C'est juste là maintenant. Quand la tristesse émerge, quand la dureté émerge, quand l'angoisse émerge, c'est dukkha. C'est aussi ce manque de vigilance. Nous ne sommes pas présents et alors toutes sortes de démons peuvent entrer. Ajahn Chah donne l'image d'une chaise qui est dans une chambre. Si je suis bien assise sur la chaise, si la présence habite mon corps, l'aveuglement, les démons, ils peuvent entrer, mais il n'y a pas de place. Ils vont entrer et puis ils vont sortir. Mais c'est moi qui fais l'espace à l'intérieur, parce que je ne suis pas vraiment là. Et alors, c'est une sorte, nous vivons notre vie dans une sorte de sommeil réveillé, où nous nous vivons essentiellement dans la pensée, qui n'est absolument pas du réel, c'est du vent. Nous oublions que nous avons un corps. Quand une émotion perturbatrice arrive, nous camouflons du mieux que nous pouvons pour pas trop sentir. Et nous sommes en état de survie la plupart du temps. C'est donc important de bien sentir comment ça se passe, comment je me vis dans mes constructions, ou comment je me vis dans mes émotions, comment je peux être envahie par mes émotions, de vraiment le sentir, pas le sentir juste un tout petit peu comme ça, mais vraiment aller, ah ouais, mais je suis complètement envahie. Ah, c'est intéressant. L'intérêt est un facteur de l'éveil. Il y a l'intérêt. Et ça fait du bien. On peut sentir comment. Ça fait du bien quand je viens avec cette qualité d'intérêt, plutôt qu'avec ce sens du bien et du mal, toujours. Ah là là, je vais penser mal. Ou alors, nous sommes envahis par nos activités. Ça camoufle beaucoup. Je fais. Je connais bien. C'est pas un mal, mais c'est tellement important d'amener la lumière de la conscience de manière à être en paix avec ce dukkha. La libération, c'est pas qu'il n'y a plus de souffrance. C'est que la réponse que je donne à la souffrance est une réponse sage. Et le Bouddha a parlé de ces 5 agrégats de la saisie dont j'ai parlé souvent et que je répète juste parce que nous les approfondissons toujours un peu plus. Comment le contact, on a des contacts sans arrêt tout le temps. Quand je parle, ça crée des contacts différents pour chacun d'entre vous. Les contacts visuels, auditifs, gustatifs, mais aussi les contacts liés aux pensées qui émergent. Dans l'exercice de la méditation, tout va bien, je suis bien. Là, avant, quand j'étais dans mon truc familial, c'était hallucinant. J'étais assise, tranquille, méditais, puis tout d'un coup, la pensée de ma fille. Ça faisait une espèce de bulle qui faisait bloup. Et puis, il y avait une sorte de déséquilibre. Je ne sais pas comment dire, c'était vraiment énergétique. C'était passionnant. Mais enfin, quand même, ça demandait du soin et de la guérison. Et ça, ce contact avec une pensée, ça arrive souvent dans l'exercice de la méditation. Je suis tranquillement assise, puis tout d'un coup, il y a une pensée qui vient et plouf, ça me fait partir, Dieu sait où, ou ça me contracte le corps, ou... Donc il y a des contacts. Et ces contacts engendrent un ressenti qui est très souvent neutre, quelquefois agréable, ça crée de la détente, quelquefois désagréable, ça crée une tension. Et ces ressentis ont bien sûr une représentation. Et il y a un souvenir qui vient, qui colore. Il y a donc le cœur qui est touché. Ça crée une sensation de joie ou d'ouverture ou de tristesse, de fermeture ou de peur. Et la représentation vient presque en même temps. Il y a une image qui justifie au fond le ressenti émotionnel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons aucun impact. C'est ce qu'on appelle le karma. Ça se passe. En tout cas, moi, je pouvais bien voir comme ça se passait. Il suffisait de la pensée, plouf, c'était soit mon fils, soit ma fille. Plouf, et plouf. Ah, c'était vraiment conditionné de chez conditionné. Et puis, après, il y a les constructions. Et là, c'est optionnel. C'est ce que la méditation nous permet de transformer, cette réponse que nous donnons. Soit nous allons dans ce qui est sagesse à l'intérieur de nous-mêmes, et il y a l'intérêt, il y a le discernement, parce que c'est relativement dégagé de l'impact émotionnel. Ou alors nous allons dans le moi qui panique, qui tourne en rond, qui cherche une porte de sortie sans la trouver. Ou peut-être en la trouvant, mais il n'a pas un refuge ou un ancrage qui met les choses à leur place. Nous ne savons pas mettre la pensée à sa place. Et alors nous la laissons nous envahir et nous... Cette pensée active l'identification. Et avec l'identification, il peut y avoir des souffrances extrêmement profondes, majeures. Des bonheurs aussi, mais des bonheurs... qui font un peu peur. Parce que ce qui se cache derrière, c'est tout ce qui peut revenir comme aveuglement. Donc en général, lorsqu'il y a je peux dire, ce conditionnement, contact, ressenti, représentation et puis construction. Certaines constructions sont neutres, normales, la vie, quoi. Et certaines constructions ont une couleur ou un résonnement, une vibration énergétique qui est puissante. Et c'est là qu'il y a le plus de soins à donner. Quand il y a cette puissance énergétique qui appelle. Et en fait, la seule chose qu'elle demande, cette puissance énergétique, c'est que je lui donne du soin. Parce que la conscience guérit. C'est Ezra Baïda qui dit dans son bouquin, je ne sais plus lequel, parfois on se demande. Comment fonctionne ce processus d'éveil graduel? La réponse courte est la conscience guérit. Plus nous sommes présents à notre inaccompli, plus nos attachements à nos opinions, à nos droits, à nos peurs commencent à diminuer. Se connaître soi-même avec précision et honnêteté est un chemin traditionnel efficace pour se libérer de nos schémas conditionnés. Ce n'est pas que nous nous intéressons à la souffrance elle-même, mais ce que nous utilisons la souffrance pour grandir. La souffrance devient, quand le Bouddha parle de la souffrance comme étant l'aiguillon qui nous pousse à la réalisation, c'est bien ça que nous faisons. Peu à peu, il n'y a plus vraiment de préférence entre guillemets un bon ou un mauvais karma. Parce que dans le bon karma, ben, je sais que je suis un peu en train de replier, tout va bien, quoi. Et quand il y a le mauvais karma qui arrive, je m'éveille. Hein, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est là que le pas en avant ou que la marche peut être grimper, si on veut prendre un truc hiérarchique, un peu. Excusez-moi, attends, ça revient. Donc, pour que nos difficultés diminuent, il faut les explorer, les investiguer, les laisser être, leur faire la place dans le corps, les aimer, en tout cas les accepter. Le vide existentiel, le besoin de contrôle, ça n'est pas mal. C'est dukkha. Oui, oui, ça fait mal. Ok. Mais j'ai le courage d'aller voir. Parce que juste être assis sur le coussin et trouver un confort plus ou moins agréable, c'est bien. Mais ça n'est pas suffisant. Nous avons des attentes, nous voulons être calmes. C'est bien, c'est une bonne intention. Mais nous n'avons trouvé le calme que d'une seule manière, laquelle? Ah, vous ne dites pas tous à la fois. Que d'une seule manière, c'est une rencontre bienveillante avec l'agitation. Nous allons savoir être tendres que d'une seule manière, c'est la rencontre bienveillante avec notre dureté. Nous allons savoir être bienveillants que d'une seule manière, c'est la rencontre bienveillante avec notre méchanceté, notre malveillance. Et si nous voulons avoir une pensée claire, il n'y a pas d'autre chemin que de vraiment nous ouvrir à notre confusion. C'est un grand discernement de pouvoir vraiment s'ouvrir. Waouh, mais là, je suis dans une confusion totale. Ah, c'est comment? En général, derrière, il y a un truc émotionnel qui vibre. Il y a du jus, il y a un jus quelque part. Et c'est pas quand l'émotion est là que je cherche à faire le clair. Parce que c'est juste mission impossible. Par contre, je peux ressentir l'émotion, aussi sentir le corps qui est là, me souvenir que c'est impermanent, et tranquillement attendre en étant là. Nous avons une grande tendance à ne pas vouloir rencontrer dukkha. Nous oublions la beauté et la puissance et la beauté de nos résistances. Nous croyons que c'est l'ennemi à abattre alors que c'est l'adversaire à rencontrer. Et nos résistances peuvent être d'éviter la peine émotionnelle, de ne pas vouloir aller s'asseoir, de juger l'autre ou de culpabiliser, se juger soi-même, de parler de la pratique plutôt que d'aller pratiquer, de parler des choses plutôt que de les vivre. Et pour rencontrer cette intensité émotionnelle qui peut être tellement puissante, c'est important d'être délicat, de faire confiance à notre intelligence intuitive, de sentir quel est l'effort sage et de ne pas trop compter sur le moi. Mais plutôt d'aller vraiment questionner qu'est-ce qui se dit là et qui veut vraiment se vivre. Et de prendre refuge, ça peut aider beaucoup, parce que quand je prends refuge, je dis ma confiance à quelque chose de plus large que le moi, et je dis aussi au moi, mets-toi en silence, c'est des fois là que tu es le plus adéquat. Et en général, le moi entend très bien. Nous ne voulons pas souffrir. Et la souffrance active le mental. Et alors ça crée cet aveuglement où je suis dans la pensée. Et pourquoi est-ce que ça fait ça? Pourquoi est-ce que ces constructions émergent? Parce que c'est la nature de l'esprit. Il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est tellement important d'aller y voir. Ah ouais, ça se passe comme ça. C'est ça qui nous libère. Et ça ne nous libère pas de le faire, mais ça nous libère de la croyance que c'est vrai. C'est pas parce que ça se passe que c'est vrai. Ok, ça se passe, ouais. C'est réel. Mais ça n'a pas de vérité. Nous sommes tellement plus que ça. C'est un chemin qui est profond. La fin de la souffrance ou la réalisation de notre nature ultime, c'est quelque chose qui est au plus profond de l'être. Et quelquefois, nous pouvons être un peu découragés. Nous ne voyons pas de fruits à l'exercice. Je me donne tellement de peine, ça fait tellement longtemps. Puis tu vois, je souffre toujours. Ah, du découragement, quelquefois. Et de nouveau, là, c'est tellement intéressant. Plus nous avons d'attente, plus nous souffrons dans l'instant. Moins il y a d'attente, moins je souffre dans l'instant. Et ça, nous pouvons le vérifier. Et je vous le dis pour vous encourager, c'est une petite image, je ne sais plus où j'avais lu ça, que l'exercice de la méditation, c'est comme de frapper sur une bûche quand on veut qu'elle éclate. Hein. On frappe une fois, deux fois, trois fois, et puis à la 11e fois, elle éclate. Mais s'il y avait une fois de moins où j'avais frappé, elle n'aurait jamais éclaté. Les zen qui disent, même si nos efforts de présence semblent pendant des années ne produire aucun résultat, un jour, une clarté qui leur est exactement proportionnelle va inonder notre esprit. Donc nous osons regarder peu à peu nos tendances, nos schémas, nos manières de faire. Et pourquoi est-ce que nous allons toujours regarder là? Pourquoi je ne vais pas regarder tout ce qui va bien, me réjouir? Parce que à terme, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup plus de joie à ouvrir le cœur à la souffrance qu'à jouir d'un bon karma. C'est une joie qui est tellement goûteuse. Parce qu'il y a de la, il y a de la, il y a de la vérité, hein. Il y a de la vérité, il y a de la, il y a de la sagesse. Il y a la fin de cette préférence. Il n'y a plus de préférence. Et ça, c'est un geste d'abandon qui est tellement précieux. C'est plus ceci ou cela. Je suis heureuse avec ce qui est dur, ce qui est souffrance. C'est la fin de cette tension où je veux toujours ce qui est bon et où je rejette ce qui est mal. C'est la fin de mon cas, quoi. Et puis, il y a un aspect intéressant aussi dont j'ai un peu parlé, c'est l'impermanence qui fait que nous ne pouvons pas maintenir l'expérience bénéfique. De toute manière, nous ne pouvons pas la maintenir. Il y a comme une espèce d'addiction au bonheur. Je veux être heureuse. Et puis quand j'y suis, ça va un petit moment, puis après, j'en ai marre. Un très bon repas, on peut le manger, puis après, c'est fini. On ne peut pas manger plus. Mais c'est la même chose pour l'exercice de la méditation. Une bonne expérience, ça va bien, et puis c'est super, et puis je reviens m'asseoir et patatras. Et nous pouvons voir comment nous voulons nous sentir heureux, libérés, avoir de belles relations, être un bon yogi. Et combien nous ne pouvons pas soutenir vraiment ça. Tout d'un coup, je trouve plus du tout que je suis un bon yogi. Et si j'y crois, eh ben je rends des problèmes. Mais si je vois que ça a juste changé, avant je trouvais que j'étais une super bonne enseignante. Oh, puis maintenant, alors, oh non, mais une pipe, qu'est-ce que je vais leur dire? Ça y est, j'ai encore ma pété. Anicca, ça change. Le regard que je porte sur moi, sur les autres, ça change. Je me dégage du je devrais, il faudrait, si seulement. Ce vague sentiment de faute où je devrais vaguement être parfaite, répondre à l'attente de tout le monde. Il n'y a pas d'erreur, c'est la nature de l'esprit d'être limité, d'être juste ce qu'il est. Et c'est aussi la nature de l'esprit de pouvoir dire, eh ben c'est assez comme ça, c'est bon comme ça. Il n'y a pas besoin de plus, pourquoi? Qui me demande ça? Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui me le demande. Nous avons donc à l'intérieur, en même temps, ce discernement qui peut dire, mais oui, c'est assez, et cet aveuglement qui est toujours en train de courir après quelque chose. Croyons, nous avons un vague espoir que la méditation va changer quelque chose. Mais la méditation ne va rien changer. Elle va faire une seule chose, c'est qu'elle va révéler. Elle va révéler, elle va mettre en lumière. En même temps, le qui suis-je, nous ne pouvons pas faire l'économie d'aller voir les poches de souffrance, de peur, de stress, de rage, de haine. Parce que la haine, elle ne s'arrête que par l'intérêt et l'amour que j'ai pour elle, dans l'instant. C'est où la haine ? Dans le corps, c'est où ? Évidemment, c'est pas, faut pas confondre activer la haine par le geste et par la parole ou ressentir la haine que j'éprouve dans le corps et qui lui permet de lâcher. La méditation révèle dukkha, elle révèle ses limites, mais elle révèle aussi la fin de dukkha. Elle permet aussi au cœur de l'être de se nourrir, de faire le plein, de grandir, de lâcher. D'une certaine manière, le cœur de l'être, c'est pas quelque chose que je peux saisir, c'est au contraire quelque chose qui est et qui ressemble beaucoup à la présence dans l'instant, à la pleine conscience. Quand je questionne est-ce que je suis là, en fait j'y suis. Mais au début nous ne le savons pas. Donc, nous sommes là pour pratiquer le vipassana, voir les choses telles qu'elles sont. Et ça n'est pas un idéal, c'est vraiment une déshypnose. Je me déshypnose de tout ce que je trouve que je devrais faire, être, devenir, croire, penser. Prendre sa place, je prends ma place, mais c'est une place humble, parce que c'est vrai que nous sommes poussière, en tant que moi, nous sommes poussière. En tant que conscience, nous sommes sans limite, éternelle, nous sommes tout, un tout qui contient le rien. Donc lorsque nous disons la vie est souffrance, ça n'est pas qu'elle est seulement souffrance, elle est aussi beauté, et ça fait du bien. Mais elle n'est pas seulement beauté. Et je sais, j'ai compris ça. Donc je ne suis pas étonnée quand les choses changent, parce que le cœur est ouvert, il est là pour recevoir. Et alors, toute expérience devient source de sagesse. Je vais vous lire peut-être une parole que j'ai plus lue depuis tellement longtemps. Une parole de Ajahn Chah qui dit: en vérité, le bonheur est une souffrance déguisée, mais d'une manière si subtile que vous ne le voyez pas. Si vous vous accrochez au bonheur, c'est comme si vous vous accrochiez à la souffrance, mais vous ne le réalisez pas. Lorsque vous saisissez le bonheur, il est impossible de vous libérer de la souffrance inhérente à l'âme humaine. L'un et l'autre sont inséparables. C'est pourquoi le Bouddha nous a enseigné de porter l'attention sur nos douleurs, de les voir comme appartenant au bonheur, de les voir avec une égale ouverture. Ainsi, soyez prudents. Lorsque le bonheur arrive, ne soyez pas trop joyeux. Ne vous laissez pas emporter par le bonheur. Et lorsque la souffrance vient, ne désespérez pas. Ne vous perdez pas en elle. Voyez-les toutes deux comme ayant une égale valeur. Il y a la conscience et l'expérience où le moi est l'observateur qui chemine main dans la main. Et puis, il y a ce témoin, ce qui sait, qui peut contempler, ah ouais, il y a l'expérience et puis il y a la conscience, il y a le cœur. Ok, maintenant je suis plus dans l'expérience, je suis plus dans le cœur. Et c'est très bienfaisant pour la condition humaine. La condition humaine a cette compétence qui est extrêmement précieuse. C'est la seule manière de se libérer de l'angoisse existentielle. Parce que ça donne un sentiment d'appartenance, d'unification, de fraternité. Ça nous libère de l'isolement, de la peur de n'être rien. De toute façon, je suis rien, donc c'est bon quoi. Et ça n'est pas seulement dans la tradition bouddhiste que ces valeurs-là sont développées. C'est les pères du désert qui disent « Garde ton âme en enfer et ne désespère point. » C'est exactement ça. J'ai envie de vous lire encore une autre parole que j'ai aussi plus lue depuis je ne sais pas combien de temps, qui est tellement belle, je trouve. Du Saint Petit Placide, dans la vie du Saint Petit Placide. L'homme fort est celui qui s'est profondément enfoncé dans la faiblesse du Christ. Bon, voilà, c'est chrétien. Écroulement de la force factice, du plein de soi, de l'agitation ridicule de la fourmi qui croit bâtir le monde. Tout anéanti, il dit « Seigneur, je ne peux plus rien ». Et à mesure que s'écroulait sa force humaine, la force de Dieu le remplissait. C'est vraiment ça. Je me vide de tout ce qui est de trop. Et je laisse la place pour ce qui est rien, mais qui est tellement bienfaisant. Parce que ce rien, c'est tout. C'est la substantifique moi de ce que nous pouvons nous offrir. Alors, nous pouvons laisser l'expérience tranquille. Je ne traficote plus l'expérience, l'expérience, je la laisse tranquille. Mais ce que je traficote encore un peu, c'est ce qui sait. Est-ce que le témoin est vraiment là, vraiment ouvert, vraiment bienveillant? Et puis s'il n'est pas bienveillant, eh ben, c'est lui que je mets en priorité. Oh, pas bienveillant. Conscience de la conscience. Toujours, l'expérience peut être source de sagesse. C'est à moi d'explorer comment. Je viens de me faire opérer de la hanche et puis je vous le dis parce que c'était une expérience vraiment chouette pour moi. J'étais dans mon lit, là, ça n'allait pas du tout, horrible. J'avais pris des médicaments qui me faisaient. J'étais tellement mal, j'avais envie de vomir, mais je ne pouvais pas vomir, ça me tournait. Le cœur, c'était. J'avais le dégoût de la vie, il fallait plus me causer de la vie. Les pensées, je ne pouvais pas en mettre trois ensemble. La conscience, je ne pouvais pas aller dans les pieds, je ne pouvais aller nulle part. Et tout d'un coup, ce qui est venu, c'est ben bon, puis alors il est où le nirvana? Puis c'était tellement intéressant. Parce que ce qui est venu, c'est knowing. C'est venu en anglais parce que c'est tellement bien knowing. Parce que c'est en train de savoir. Tu es en train de savoir ce qui se passe. Et alors, j'étais en train de savoir. Alors, ça s'est détaché comme ça s'est dégagé. Et puis, c'était bien, j'étais juste en train de savoir. Ouais, ça, là, alors, pour être la totale, c'est la totale, quoi. Mais j'y étais plus. Hein, j'étais plus dedans. J'accompagnais. Et vous pouvez vraiment faire l'expérience quand il y a l'impatience. C'est douloureux dans une retraite, l'impatience. J'en peux plus, j'en ai marre. Ok, j'en ai marre. Ouais, j'en ai marre. Et il y a le knowing. Il y a ce knowing. Et c'est ça qui devient refuge. C'est pas l'expérience. Elle ne peut rien me donner de vraiment grand, l'expérience. Mais le knowing. Ce qui sait, le témoin, l'observateur. Waouh! Le Bouddha a dit, quand on lui a demandé comment il avait traversé l'océan de souffrance, il a dit, je ne suis allé ni trop vite, ni trop lentement. Celui qui va trop vite s'épuise et se noie. Et celui qui va trop lentement n'arrive jamais de l'autre côté. Alors, à nous de savoir comment articuler l'exercice pour être en équilibre le plus possible. Je vous propose qu'on prenne une ou deux minutes en silence.
Thank you.